Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Les nouveaux aventuriers ne sont ni les barons de la finance, ni les rois du showbiz, mais ceux qui, par leur énergie, leur volonté, leur courage, vont aller vers des lieux inconnus, sinon hostiles, au-delà du monde des terriens, aidés en cela par quantité d'hommes, chercheurs, ingénieurs, techniciens qui participent à la grande aventure spatiale. Philippe Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de ces aventuriers puisque vous êtes spationaute. Alors, grâce à vous, j'ai pu faire la différence. En France, on dit spationaute. Vous avez souvent utilisé, vous, astronaute, puisque c'était à la NASA.
C'est ça.
On prononce la NASA.
NASA, bien sûr.
Ça aussi.
Bien sûr.
Aux États-Unis, ou cosmonaute, puisque vous avez fait un séjour en Russie, en URSS à l'époque, suivant les lieux, donc. Et vous avez donc travaillé dans ces trois pays. Alors, merci d'être venu à Radio Présence, partager avec nous le récit de votre incroyable vie professionnelle, votre parcours depuis les plus jeunes années. Nos auditeurs pourront retrouver dans votre livre récemment édité chez Lafond, intitulé « En apesanteur ». C'est un ouvrage passionnant, généreux, tant par votre récit très détaillé que dans le partage de vos émotions et des liens avec ceux qui vous entourent. Voyez, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont accroché. Je me suis dit, mais ce livre, il doit marcher, il va marcher. En tout cas, avez-vous le sentiment d'avoir réalisé votre rêve d'enfant?
C'est même... Alors, la réponse est oui. Je crois que c'est même plus grand que ça. C'est-à-dire qu'enfant, j'ai eu l'impression que ma vie était écrite. Alors, c'est très étrange.
Vous aviez un destin.
Comme si j'avais un destin. Alors, cette histoire de destin, on pourra en parler longuement. J'en parlais, par exemple, à des entraîneurs sportifs qui préparent les gens aux compétitions de type Jeux Olympiques ou autres.
Vous auriez dû rencontrer notre champion de natation.
Bien sûr, mais j'espère le faire bientôt. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas un athlète qui remporte des Jeux Olympiques qui ne se soit pas vu enfant dans cette réalisation d'un rêve de remporter les Jeux Olympiques. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle en science le processus anthropique. C'est parce que, quelque part, j'ai réussi que je peux dire que j'en rêvais.
Et mais vous avez tout mis en œuvre.
Mais il y a l'inverse. Alors, voilà. Ça reste quand même pour moi étrange, parce qu'à l'adolescence, je parcours la Provence sur une petite mobylette et je rêvasse. J'ai toujours beaucoup rêvé. Et je me vois rentrer dans l'atmosphère à bord d'une navette spatiale. À l'époque, la navette ne vole pas. À l'époque, le premier astronaute français, Jean-Luc Chrétien, n'a pas encore volé.
Jean-Luc Chrétien qui était à votre place, qui est venu ici.
Ah, Jean-Luc Chrétien,
que j'ai interviewé.
Pour qui j'ai une amitié, un amour inconditionnel et un respect inconditionnel. Jean-Luc était un très, très grand monsieur. Et dans cette histoire, donc, je me vois rentrer dans l'atmosphère et j'associe ça à une musique. À l'époque, j'écoute un groupe de rock qui s'appelle Supertramp. Et je me retrouve dans l'espace. Et là, je réalise que finalement, mon rêve se réalise, mais qu'il n'y a pas Supertramp. Et là, bah, écoutez, croyez-moi ou non, mais le commandant de bord avait amené un CD de Supertramp.
Oui,
c'est le destin.
J'ai pas hurlé, mais je me suis dit, mais comment Philippe Perrin peut-il aimer cette...
Alors, vous avez vu, j'ai des goûts éclectiques, mais en même temps,
très classique.
Ah oui,
non, mais j'ai beaucoup aimé vos goûts concernant les chanteurs.
On en parlera.
En tout cas, oui, vous avez eu une enfance heureuse, un peu déracinée, puisque vous étiez au Maroc et ensuite vous êtes venu en France. C'est, à mon avis, c'est un plus, le fait de changer de pays, de vivre dans plusieurs pays. Les parents, comment étaient-ils?
Alors, vous avez raison, c'est un plus parce que... On est riche de deux cultures, et quelque part, on peut se permettre aussi de juger l'une et l'autre, puisqu'on a d'autres références. Et mes parents sont eux-mêmes déracinés, ils arrivent en France avec rien, si ce n'est cette image de la France qui était souvent cultivée à l'étranger. D'ailleurs, on la retrouve chez certains intellectuels français qui sont d'origine du nord de l'Afrique, à travers des parcours très différents, mais il y a toujours cette idée d'une France, je la cite, éternelle, brillante, républicaine, artistique. Et donc, on rêve d'une France qu'on va passer ensuite toute sa vie à chercher, dont on veut faire la promotion, donc, qu'on veut voir grande, et ça a été mon destin. Mon destin, ça a été de servir cette France.
D'accord. Et comme on est obligé de rencontrer, d'aller vers les autres quand on change de pays, après on devient très accueillant, je trouve, beaucoup plus accueillant.
Oui, alors c'est vrai que mes parents m'avaient appris ça, les pieds noirs. Moi, enfant, je voyais souvent arriver des gens à la maison.
Très conviviaux.
C'est-à-dire que papa et maman rencontraient des gens dehors, puis tout de suite, ils étaient invités à dîner. Et donc, pour moi, c'était la chose la plus évidente. Ouais.
Et avec vous, comment était-il ?
Alors, c'est assez différent. Je ne parle pas sans émotion, parce que j'ai perdu mon père il y a 2 mois. Mais maman, c'est... Elle est très en colère quand je dis ça, un peu l'archétype de la mère pied noir. La maman, c'est-à-dire très aimante, oui, très possessive et très ambitieuse. Et donc, je la remercie parce qu'elle m'a donné cette ambition, elle m'a donné cette force.
D'accord. Et le père ?
Papa, c'est quelqu'un de sa génération, c'est-à-dire probablement aimant, mais distant.
Exigeant.
Exigeant, travailleur et donc totalement absent.
Donc, vous avez fait de bonnes études, puisque vous êtes arrivé à Polytechnique quand même. Il n'y a pas eu de problème.
Il y a un problème, parce qu'au départ, je veux être physicien.
D'accord.
Donc, je me fixe une barre absolue qui est d'intégrer la rue d'Ulm. 10 places par an en physique.
D'accord.
Et j'échoue. Et donc, je me retrouve à l'école Polytechnique.
Le service militaire, alors là, ça m'a fait rire. Vous n'êtes pas tombé dans la marine. Vous avez choisi.
Oui.
Bon, en tout cas, ce n'est pas la marine que vous avez choisie après, mais ça a été une décision. Pas de vie dans un bureau.
Pas de vie dans un bureau. Effectivement, je suis au départ donc un garçon plutôt renfermé. Je suis élevé à la campagne. Là, à l'époque, ce n'est pas facile de quitter la maison. Donc, je rêve beaucoup. Je lis, je travaille. Je suis un caractère plutôt besogneux. Et je n'ai pas d'idée... En terminale, et je pense aux enfants qui se posent, et souvent je les conseille la même question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Moi, je suis en terminale et j'ai un professeur de physique qui me dit, mais vous devriez faire les grandes écoles. Et j'ai aucune idée de ce que c'est. Et je pense à Louis de Funès, vous savez, dans les grandes d'Espagne. Et j'imagine à Paris des grandes écoles, c'est-à-dire des bâtiments très très hauts. Et je me dis, mais ça doit être joli. Et si j'y allais, voilà, c'est le début de ma vocation d'ingénieur.
Oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas, enfin, maintenant davantage peut-être, mais on n'était pas tellement informés de toutes les possibilités. Bon, en tout cas, ensuite, vous avez annoncé à vos parents que, en définitive, je veux papa, maman, je vais réaliser mon rêve d'enfant, je serai astronaute, mais dans l'immédiat, je dois d'abord m'engager dans l'armée de l'air. C'est quand même très, très pensé tout cela.
Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que dans ce destin, il y a des étapes qui doivent être franchies. Très tôt, je lis des vies d'astronautes. Je lis un article, Paris Match, Patrick Baudry, qui explique que pour être astronaute, il faut avoir 2 talents. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai conseillé Thomas Pesquet. Je lui ai donné ses conseils plus tard, 20 ans plus tard. Mais donc j'avais une formation, on va dire, scientifique. Et je sais qu'il me faut une formation opérationnelle. Il faut que j'aille faire la guerre quelque part. Et donc, je rentre dans l'armée de l'air pour ça.
Ah oui, alors ça m'a intrigué. À un moment donné, je ne suis pas fait pour les temps de paix. Ça,
oui.
Vous m'avez étonné.
Oui, alors, c'est extrêmement prétentieux quand je dis ça. Pourquoi ? Parce que je pense que les personnes les plus utiles à la société n'apparaissent que dans les temps troubles. Mais je pense au général de Gaulle. Vous savez, moi, je suis un gaulliste...
Un vétéré
fervent, gaulliste social, enfin quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Donc je me retrouve chez Michel Onfray et Henri Guénaud, c'est à peu près tout.
Mais vous ne croyez pas quand même qu'il y a des gens qui œuvrent même en temps de paix, qu'on ne connaît pas?
Ah mais bien sûr, mais qu'on ne connaît pas.
Oui, voilà.
Oui, oui, c'est ça. Non, d'accord. Mais on est d'accord.
Oui.
On est d'accord. Vous citiez les barons de la finance.
Ah oui.
Et donc, bien sûr, heureusement.
Oui.
Non. Mais tous ces gens qui aujourd'hui donc œuvrent en temps de paix, finalement on en parle peu.
Oui.
On
en parle très peu.
On en parle très peu.
Alors, d'abord l'école de l'air à Salon de Provence, évidemment. Qu'est-ce que vous y avez appris, en fait, pour votre formation ?
Je dis souvent que l'armée de l'air m'a tout appris, absolument tout. Avant tout, la fraternité, le respect, le courage. Vous savez, un courage, bon, c'est le courage évident de partir en avion quand la mission est difficile. c'est aussi le courage de dire les choses. On m'a appris qu'on avait le droit de dire. Dans le monde du politiquement correct aujourd'hui, qui règne parfois justement en entreprise, où on ne peut plus rien dire, où finalement on dit le contraire de ce qu'on pense, où on finit par mentir quand on est ministre des Finances. Voilà. Dans ce monde qui n'est plus un monde de vérité, dans l'armée, régner la vérité pour une raison assez simple. Quand vous êtes dans un avion, d'abord comme aviateur, et puis pire encore comme pilote de combat, vous ne pouvez pas mentir. S'il y a une menace, il y a une menace.
Pourtant, on dit que c'est la grande muette, l'armée.
Alors, c'est la grande muette vis-à-vis de l'extérieur,
oui.
Mais en interne, non, on parle beaucoup. Je cite plein de réflexions qu'on a pendant la guerre du Golfe, on se pose des tas de questions.
Bien sûr. Alors, la rigueur militaire, bien sûr. J'ai l'impression, l'exercice quotidien des responsabilités, évidemment.
Voilà, c'est-à-dire, c'est ce que j'apprends aussi, c'est à prendre des décisions. C'est très facile quand on est aviateur d'avoir ce réflexe, parce qu'on est obligé en permanence de prendre des décisions.
Et apprivoiser et la peur, et même la mort, l'idée de la mort.
Oui, alors assez bizarrement, c'est un passage obligé, et pour moi c'est presque une façon d'appréhender la vie, c'est-à-dire que se confronter à la mort, en tout cas au risque, est une façon de vivre de façon plus intense. En tout cas, c'est mes premières années.
Francis Perrin, un grand merci. Vous voyez, 12 minutes, c'est très court, mais nous retrouvons nos auditeurs la semaine prochaine, même jour et même heure. Merci.
Merci à vous.